il est midi et demi. On retrouve Antoine Marette pour le journal. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Nous reviendrons sur l'annonce de la direction de Sanofi. Le géant pharmaceutique va supprimer 1700 emplois, dont 1 millier en France. J-2 pour le second tour des municipales. Nous nous intéresserons aux villes qui pourraient changer de majorité. Dans l'actualité internationale, la famine menace les enfants du Yémen en cause de la chute des dons en faveur de l'aide humanitaire. Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition pourrait atteindre 2 400 000 d'ici la fin de l'année dans le pays. Invité de la séquence interview de ce journal, Laurent Saint-Martin, député LREM et rapporteur général du budget. Nous reviendrons avec lui sur le troisième budget rectificatif qui intègre les plans d'aide au secteur automobile, aéronautique et touristique. Ce budget est examiné à partir de lundi prochain à l'Assemblée. Sanofi veut supprimer 1700 emplois en Europe, dont 1 millier en France. Le géant pharmaceutique explique que cette réorganisation correspond à une nouvelle stratégie et non pas à un plan social lié aux conséquences de la Covid-19. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Antoine.
La direction explique que ce plan de départ est basé exclusivement sur la base du volontariat et il va s'étaler sur 3 ans.
Oui, alors ces licenciements correspondent à une réorganisation pour une nouvelle stratégie, selon Olivier Boguillot, le président France du groupe, qui assure également que cela n'a rien à voir avec un plan social lié aux conséquences du Covid-19. Ce plan de départ a été présenté ce matin aux partenaires sociaux. Il devrait en effet s'étaler sur 3 ans et se faire exclusivement sur la base du volontariat. Certains sites en Île-de-France devraient être particulièrement visés, surtout ceux qui concernent les fonctions support. Il ne devrait pas y avoir cependant de fermeture d'usine, précise la direction. Le groupe ne voudrait-il conserver que les activités les plus rentables? C'est l'impression en tout cas qu'ont ce midi les syndicats. Des syndicats de salariés qui ne manqueront pas de faire éclater leur colère quand on sait que Sanofi, avec la crise du Covid, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,9%. Pour rappel, 4 milliards de dividendes ont été versés aux actionnaires cette année. 200 millions d'aides d'État ont été annoncées pour relocaliser la production. Des millions d'aides au titre du crédit d'impôt recherche. Et enfin, un budget en France qui dépend à 80% de la sécurité sociale. Autant dire que ces annonces de licenciement ne vont pas passer comme une lettre à la poste, Antoine.
Merci à vous, Annabelle Grelier. Mieux vaut tard que jamais, même si la réponse est décevante pour ceux qui l'ont posée. En décembre 2018, 4 associations ont signé l'État en justice pour son inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En janvier 2019, la pétition « L'affaire du siècle » accumulait rapidement des signatures. 2 300 000 Français soutenaient l'initiative. Dans son mémoire en défense, composé de 18 pages, l'État rejette les arguments présentés par les organisations conquérantes et nie en bloc les carences pointées par « L'affaire du siècle » alors qu'elles avaient été confirmées par le Haut Conseil pour le climat. Une négation en bloc que Célia Gauthier de la Fondation Nicolas Hulot a vraiment du mal à comprendre. Elle répond à Véronique Reberotte.
L'État, par exemple, temporise sur les objectifs qu'il s'est fixés en disant que la période n'est pas révolue, mais en fait, ces objectifs courent jusqu'à 2020. Nous avons déposé l'affaire du siècle en 2019, donc il faudra que l'État nous explique comment en un an, il compte rattraper le retard énorme que nous avons soulevé dans notre recours, par exemple, sur la rénovation énergétique des bâtiments, les énergies renouvelables, ou sur certaines réductions d'émissions de gaz à effet de serre prévues dans certains secteurs. L'État aussi rejette la faute sur les citoyens, les collectivités territoriales et les entreprises. C'est assez déroutant. Il dit que lui, il a mis suffisamment de lois en place, de réglementations en place, mais que c'est quand même très difficile de corriger les comportements individuels. Donc en fait, il omet complètement son rôle de régulateur, d'investisseur, d'acheteur dans l'économie française. Et là, on voit bien qu'avec la sortie de crise du Covid-19, quand l'État veut, il peut, il devient stratège dans l'économie, il investit, il finance. Donc pour nous, à l'affaire du siècle, eh bien, le dossier se poursuit au tribunal, l'affaire continue. Nos 4 ONG vont déposer un mémoire en réplique, c'est-à-dire une réponse à la réponse de l'État, dans laquelle nous allons démontrer factuellement à nouveau nos reproches et les carences de l'État. Pour ça, nous allons nous appuyer sur des mesures chiffrées. Et donc l'affaire se poursuit au tribunal administratif de Paris.
J-2 pour le second tour des municipales après un taux d'abstention record au premier tour et un second tour déplacé en catastrophe. Pas sûr que le scrutin de dimanche mobilise les foules, d'autant plus que la peur de la Covid-19 est toujours bien présente. Et pourtant, il existe des enjeux importants, car si dans les villes comme Rennes, Nantes, Brest, Pau ou Le Mans, les maires sortants sont favoris, d'autres villes, en revanche, pourraient basculer. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Alors, quelles sont les villes qui pourraient changer de majorité?
Il y a d'abord plusieurs villes où la droite était jusqu'ici aux responsabilités et qui pourraient basculer. C'est le cas d'Aix-en-Provence, de Périgueux, de Chambéry, où le maire sortant, Les Républicains, Michel Dantin, est menacé par une coalition de gauche emmenée par l'ancien ministre socialiste Thierry Repentin. C'est délicat également pour la droite à Montceau-les-Mines, à Quimper, en Bretagne, où le sortant Ludovic Jolivet, arrivé deuxième au premier tour, est grandement menacé. Jean-Pierre Bechter à Corbeil-Essonne, la ville de Serge Dassault est également en position délicate. Au Touquet aussi, la ville d'Emmanuel Macron, l'ancien maire, actuel député LR et véritable patron de la ville jusqu'ici, Daniel Fasquelle, est menacé par une liste soutenue par La République En Marche. Et puis il y a bien sûr les métropoles, Marseille et Toulouse, qui sont en passe de basculer. Dans les deux cas, ce sont des coalitions de gauche emmenées par des écologistes qui menacent les majorités sortantes. Toutes ces villes sont en général des villes qui avaient basculé à droite à l'occasion de scrutins précédents, notamment en 2014, mais qui ont conservé une sociologie électorale ancrée plutôt à gauche. Et de ce fait, il s'opérerait un rééquilibrage à l'occasion de ce scrutin. Une autre ville où la gauche est en mesure de s'imposer, une ville importante, c'est Nancy, où le sortant Laurent Hénart est en grande difficulté face au socialiste Mathieu Klein. Mais la gauche et le PS se retrouvent également en difficulté dans un certain nombre d'endroits, tout particulièrement à Lille, où Martine Aubry, après avoir perdu la métropole, pourrait être amenée à lâcher la mairie. À Poitiers également, le sortant socialiste Alain Claisse est en situation délicate face à l'écologiste Léonore Monconduit.
Effectivement, la force politique qui pourrait gagner plusieurs de ces villes, c'est Europe Écologie Les Verts.
Oui, les écologistes sont en mesure de s'imposer dans un certain nombre de grandes, voire de très grandes villes. Déjà à Grenoble, où le sortant Éric Piolle, sauf énorme surprise, devrait rempiler. À Poitiers, on vient de le voir, à Lille, c'est un écologiste qui faisait auparavant partie de la majorité qui mène la fronde contre Martine Aubry. Ce sont les écolos également qui mènent la danse à Toulouse, à Marseille, à Besançon, ils sont favoris, à Tours également. S'ils confirment dans toutes ces villes ou dans une grande majorité d'entre elles, on pourra parler de vague écologiste à l'occasion de ce scrutin.
Merci à vous Stéphane Robert. C'était il y a 10 ans, l'équipe du professeur Lantieri à l'hôpital Pompidou à Paris réalisait la première greffe totale de visage. Le patient était un homme atteint de neurofibromatose. 5 ans plus tard, la greffe s'est détériorée. Il a dû se faire greffer un nouveau visage. Depuis, il va bien. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Son expérience nous rappelle à quel point cette technique est délicate.
Il y a d'abord l'habileté extraordinaire des chirurgiens qui doivent prélever le visage d'un donneur compatible. En l'occurrence, pour Jérôme Hamon, il a fallu prendre la bouche, les paupières, le nez, les joues et tout le système lacrymal sans abîmer les vaisseaux sanguins ni les nerfs. Mais outre cette prouesse technique, le véritable défi pour les médecins, c'est de prévenir le risque de rejet du greffon. C'est d'ailleurs ce qui était arrivé à ce patient dont le premier nouveau visage avait commencé à se détériorer. La deuxième greffe était à ce titre encore plus délicate, expliquait l'équipe du professeur Lantieri en 2018. Il a fallu éliminer au mieux les anticorps développés par le système immunitaire du malade, en l'occurrence à l'aide d'une chimiothérapie. Cette préparation a duré plusieurs mois, mais elle a réussi. Comme toutes les personnes greffées, cet homme de 43 ans doit vivre à vie en prenant des médicaments immunosuppresseurs qui l'exposent à attraper des maladies, voire à développer des cancers. Plus largement, sur les 40 personnes environ greffées du visage en 15 ans, et bien 6 au moins sont décédées. Mais les progrès restent stupéfiants. Antoine, aux États-Unis, l'équipe du docteur Eduardo Rodriguez à New York a opéré en 2018 un jeune homme en reconstituant une partie de ses os grâce à une imprimante 3D. Des morceaux ont été fixés sous sa nouvelle peau greffée, ce qui donne un résultat plus ressemblant. Le même médecin a aussi greffé un ensemble cuir chevelu, oreille, appareil auditif, sans qu'on ne voit aucune cicatrice. C'était en 2015. Et ce chirurgien, le docteur Rodriguez, se donne 10 ans pour parvenir à fabriquer un visage fonctionnel, comme il dit, qui pourrait développer son propre système pileux et ses propres vaisseaux sanguins.
Merci à vous, Tara Schlegel. Le Conseil constitutionnel valide l'infraction pénale de violation du confinement créée par la loi de l'état d'urgence sanitaire. Les sages estiment que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l'obligation faite aux citoyens. Il écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité des délits et des peines. Pendant le confinement, quand tous les déplacements non essentiels étaient interdits, 1 100 000 amendes ont été dressées pour plus de 20 millions de contrôles. La grève se poursuit à Next Radio TV. Les antennes du groupe sont toujours perturbées, notamment à BFM TV. Les salariés réclament que la direction renonce à tout départ contraint. Ils rejettent également la suppression de la moitié des postes de pigistes intermittents. Un rassemblement a lieu en ce moment même devant les locaux du groupe. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition au Yémen pourrait atteindre 2 400 000 d'ici la fin de l'année, en cause une chute des dons. Le pays est dévasté depuis 5 ans par une guerre opposant le mouvement Houthi aligné sur l'Iran, qui contrôle une grande partie du pays, et une coalition dirigée par les Saoudiens qui soutiennent le gouvernement internationalement reconnu basé dans le sud. Les services sanitaires yéménites sont au bord de l'effondrement. Ils sont maintenus grâce à l'aide humanitaire et cette aide est en baisse, Nadine Epstein.
Malgré une trêve conclue en décembre 2018, la crise humanitaire s'aggrave. Les 24 millions de Yéménites sont dans le besoin. La pandémie et le manque de nourriture et d'eau s'ajoutent aux maux de la guerre, les déplacements, l'insécurité et l'absence d'hygiène. Un enfer pour les enfants. 12 millions de jeunes survivent uniquement grâce à l'aide humanitaire. Mais cette assistance de première nécessité est freinée par les fermetures des ports et des aéroports. Sont également interrompues les campagnes de vaccination. Les naissances sont menacées. Plus d'un million de femmes enceintes souffrent de famine ou de malnutrition et leur vie et celle de leur nouveau-né sont en danger. De plus, les accouchements n'ont pas lieu à l'hôpital et ne sont pas accompagnés par un soignant. L'UNICEF ajoute qu'aucun endroit n'est sûr pour un enfant. Chaque jour, 8 jeunes sont tués ou gravement blessés ou kidnappés ou transformés en enfants soldats. En l'absence d'une intervention d'urgence de la communauté internationale, on verra un message signifiant que la vie des enfants dans une nation dévastée par les conflits, les maladies et l'effondrement économique n'a tout simplement pas d'importance, a déploré l'UNICEF.
C'est un virus beaucoup plus mortel que la Covid-19 en Afrique. Ebola, cette fièvre hémorragique responsable de plusieurs milliers de morts sur le continent. La République démocratique du Congo a remporté une victoire décisive. Elle a annoncé hier la fin de la 10e épidémie, la 2e la plus meurtrière de l'histoire, responsable de plus de 2000 morts, et ce grâce à la vaccination, Marie-Pierre Véraud.
Une campagne massive de vaccination contre le virus Ebola. Elle a concerné quelque 320 000 personnes. C'est une première. Les deux vaccins utilisés ne sont d'ailleurs toujours pas homologués. Mais si l'OMS, comme le gouvernement congolais, se félicite de cette victoire sur le virus d'Ebola dans l'est du pays, c'est bien parce qu'elle ouvre des perspectives pour combattre de nouveaux foyers, notamment celui qui s'est déclaré dans la province de l'Équateur, dans l'ouest, un foyer sans aucun lien avec la vague meurtrière de l'Est. L'expérience devrait donc permettre de juguler plus rapidement cette 11e épidémie. Car, philosophe le patron de l'OMS, on n'en a jamais fini avec les virus. De fait, outre Ebola et le coronavirus, la RDC est aux prises avec une recrudescence de la rougeole, la pire épidémie de rougeole au monde, selon l'OMS, qui a déjà fait plus de 6000 morts, sans oublier le choléra. Mais le pays apprend de chaque épidémie. Les gestes sanitaires sont ainsi les mêmes contre Ebola que contre le coronavirus. Il est cela dit un autre virus beaucoup plus difficile à juguler, celui de la violence. Dans le Nord Kivu, les ravages des groupes armés se sont en effet ajoutés à ceux de la Covid-19. Des médecins luttant contre Ebola ont même été pris pour cible. Des violences et trafics renforcés également parfois par l'argent déversé pour lutter contre Ebola. Ce sont plusieurs centaines de millions de dollars qui ont notamment été consacrés à combattre l'épidémie au Congo.
En Pologne comme en France, malgré l'épidémie de Covid-19, on va voter ce dimanche. Là-bas, c'est le premier tour de la présidentielle et on s'achemine vers un duel très serré entre le président sortant, l'ultra-conservateur Andrzej Duda, soutenu par le parti au pouvoir, et le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages pour le second tour, mais Duda reste favori à sa réélection. Il peut compter sur le soutien des campagnes et des petites villes. Son principal concurrent doit grappiller des voix dans ses zones périphériques, mais la tâche s'annonce difficile. C'est ce qu'a constaté sur place Thomas Giraudeau.
Grouillettes, 25 000 habitants et les communes qui l'entourent ont voté à plus de 50% pour le parti Droit et Justice aux dernières législatives. Andrzej Duda devrait y enregistrer le même succès dès le premier tour ce dimanche. Agnieszka est une jeune mère de famille célibataire.
Le parti et Duda nous ont donné de l'argent. La vie est plus facile aujourd'hui. Je peux acheter des fournitures scolaires, faire des courses. J'ai même offert un ordinateur à ma fille. Et puis maintenant, il y a l'allocation exceptionnelle pour les vacances de 500 zloty par enfant. Grâce à elle, dans un mois, on part toutes les deux au bord de la mer.
Le parti d'Andrzej Duda a mis en place en 2016 une allocation familiale universelle pour chaque enfant, inédite en Pologne. À Grouillette, petite ville périphérique, on se sent enfin considéré, aidé par les politiques. Paweł, la cinquantaine, partage aussi la même vision de la Pologne que le président.
Je suis d'accord avec son programme, les traditions, les valeurs catholiques qu'il défend. J'ai grandi dans une famille croyante, donc c'est important pour moi. Et puis, je sais à quel point les Polonais ont souffert par le passé pour obtenir l'indépendance de notre pays. C'est pour ça que je n'aime pas toutes ces tentatives d'ingérence dans nos affaires internes.
Très longtemps occupé par ses voisins, la Pologne et les Polonais veulent maintenant être souverains, indépendants, et Andrzej Duda a su jouer là-dessus. S'adressant à Bruxelles, qui lui reproche les atteintes à l'état de droit, il a rétorqué qu'ils ne vont pas nous dicter ici, en langue étrangère, comment nous devons conduire nos affaires.
Après la France, les Pays-Bas viennent au secours d'Air France KLM en injectant à la compagnie néerlandaise 3,4 milliards d'euros. Une aide sous forme de prêt qui s'ajoute aux 7 milliards mis sur la table par la France. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Alors les Pays-Bas avaient promis une aide entre 2 et 4 milliards, ce sera donc 3,4 milliards.
Oui, un soutien financier très attendu. Il en va en effet de l'avenir de l'aéroport d'Amsterdam, le troisième d'Europe après Heathrow à Londres et Roissy. Il en va de cet avenir, estime le ministre des Infrastructures, car dit-il, sans les avions aux couleurs d'Air France KLM, l'aéroport perdrait 40% de son trafic alors qu'il génère 100 000 emplois directs et indirects dans la région. Le gouvernement met donc la main à la poche en prêtant 1 milliard d'euros directement. 2 milliards 400 000 autres euros de prêts seront accordés par 11 banques, dont 3 néerlandaises, avec la garantie de l'État à 90% sur 5 ans. Air France, vous l'avez dit, avait obtenu 7 milliards, dont 3 de prêts directs de la part de l'État français. Un soutien assorti de conditions, comme en France d'ailleurs. KLM doit s'engager en matière de réduction des coûts et de développement durable avec un futur plan de restructuration. Les salariés de KLM vont devoir également renoncer aux primes. La compagnie n'est plus autorisée à verser des dividendes. Les très gros salaires pourraient être amputés de 20% selon la presse néerlandaise. La compagnie a aussi promis de réduire ses vols de nuit sur l'aéroport de 20%. L'idée, c'est à la fois de réduire les nuisances sonores pour les habitants qui n'en peuvent plus et de répondre aux exigences environnementales du gouvernement. Un plan de soutien qui doit encore être accepté par le Parlement néerlandais et par la Commission européenne. Alors certes, la réglementation sur les aides d'État ici à Bruxelles a été assouplie en raison de la crise du Covid, mais les entreprises concurrentes n'ont pas tardé à réagir. Ryanair, la compagnie irlandaise Abacu, elle estime que cette aide et constitue un problème de concurrence et a appelé l'exécutif européen à bloquer ce plan de soutien.
Merci à vous Angélique Boin. Midi passé de 48 minutes sur France Culture, le troisième budget rectificatif qui intègre les plans d'aide au secteur automobile, aéronautique et touristique. Eh bien, ce budget est examiné à partir de lundi prochain à l'Assemblée nationale, après son passage en commission des finances cette semaine. Des dépenses financées par du déficit, avec une croissance attendue en baisse de 11% et une prévision d'endettement public à 121% du PIB pour cette année. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct de l'Assemblée avec Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur général du budget. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors un taux d'endettement historique, je le disais, 121% du PIB, et encore ce n'est que provisoire puisqu'on attend un nouveau budget rectificatif à la rentrée pour financer le plan de relance. Est-ce que cet endettement historique vous inquiète ?
C'est le choix qui a été fait par le gouvernement et la majorité de passer par l'endettement pour répondre à la crise et sauver notre économie et nos emplois. En vérité, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix, donc c'est celui qui a été fait. Cet endettement, nous pouvons nous permettre de le faire puisque nos créanciers acceptent de nous prêter à des conditions de financement qui sont excellentes. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que depuis cette crise, la signature de la France, comme on dit sur les marchés financiers, non seulement ne s'est pas dégradée, mais même nous a démontré qu'il y avait davantage de demandes de titres d'obligations françaises que ce que notre pays émet. Donc ça a conforté finalement la position de la France sur les marchés financiers. Alors oui, vous avez raison, le taux d'endettement à 121% du PIB est un taux important. C'est un taux qu'il faudra stabiliser, c'est un taux qu'il faudra diminuer quand nous aurons effectivement une économie qui aura redémarré, quand nous aurons des taux de croissance qui seront importants, et nous les espérons plus importants que les moyennes de nos partenaires européens, et que donc nous pourrons effectivement dégager de l'excédent primaire. Mais ça, vous savez, c'est un discours de moyen terme. L'urgence, c'est de ne pas lésiner sur l'endettement pour sauver notre économie.
Question d'Anne-Laure Jumet, chef du service économique de France Culture.
Alors, Laurent Saint-Martin, on dépasse de 2 fois les critères fixés par le traité de Maastricht pour cet endettement. Vous dites que ce critère est dépassé, mais est-ce que c'est pas un peu facile de casser le thermomètre ?
Je ne casse pas le thermomètre, je dis que nous ne le regardons pas au bon endroit pour vérifier la qualité d'un investissement. Vous savez, vous endetter, c'est ni bien ni mal, ça dépend ce que vous en faites. Si vous vous endettez pour continuer à financer à crédit le fonctionnement de l'État ou de la sécurité sociale qui elle-même est en permanence déficitaire, alors ce n'est pas du bon endettement, ce que la France a fait pendant beaucoup trop longtemps. Si vous vous endettez pour sauver votre économie, si vous vous endettez pour faire des investissements d'avenir, c'est du bon endettement. Il ne faut pas être obtus en se disant que la dette est mauvaise. La dette est bonne si elle est bien fléchée. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que le ratio d'endettement sur PIB est le bon ? Moi, je crois que ce qui compte surtout, c'est est-ce que ceux qui nous prêtent voudront bien nous prêter demain encore. Vous savez, une dette souveraine, c'est pas comme une dette d'un ménage qui achète un crédit immobilier ou une dette d'entreprise qui doit rembourser à la banque tous les trimestres. Une dette souveraine, ça se refinance en permanence. C'est-à-dire que les créanciers proposent de nouveaux taux en permanence et nous permettent de faire rouler la dette, comme on dit. Donc, il est tout aussi faux de dire que 120% de dette est un fardeau terrible pour nos petits-enfants. C'est pas vrai, puisque ce sera effectivement toujours une question de refinancement de dette et c'est ça qui compte. Et puis, c'est tout aussi faux à l'inverse de dire que cette dette, il suffit de l'annuler et puis on n'en parlera plus. Non, une dette
pas
se
être manichéen.
Exactement. Une dette se rembourse, ça c'est vrai, mais une dette se refinance en permanence et donc il ne faut pas non plus être catastrophiste et anxiogène à ce niveau-là.
Cela dit, il y a de nouvelles dépenses qui se profilent pour financer le plan de relance prévu à la rentrée. Il y a aussi ces 6 milliards d'euros pour revaloriser les salaires à l'hôpital. On les trouve où encore via du déficit ?
La stratégie, elle est simple, c'est que tant que nous serons dans cette période de soutien à notre économie, à notre personnel hospitalier et à la relance, oui, c'est l'endettement qui sera notre ressource principale. À partir du moment où la croissance redémarra, et il faut qu'elle soit la plus importante possible, alors ce seront effectivement les rentrées publiques, fiscales notamment, sociales, qui nous permettront de dégager un excédent primaire qui petit à petit rembourseront notre déficit et donc notre endettement. Mais vous savez, les courbes ne sont pas les mêmes. Vous vous endettez tout d'un coup avec un choc économique de façon beaucoup plus rapide que ce que vous pouvez rembourser au fil des années quand vous avez de la croissance. Il ne faut pas croire que nous rembourserons ces 20 points de PIB de dette en 2 ans. Il ne faut pas mentir aux Français.
Combien de temps ?
C'est un endettement que nous subirons pendant au moins 10 ans, probablement. Ça mettra beaucoup de temps à se résorber. C'est normal, nous parlons effectivement de beaucoup d'argent qui est emprunté sur les marchés, mais à nouveau, ces chiffres-là peuvent paraître astronomiques, et c'est normal, ils le sont, mais il ne faut pas en faire un totem ou un tabou. Ce sont des chiffres, ce sont des milliards d'euros qui nous sont prêtés parce que la France est un grand pays, parce que nous avons des qualités avec nos institutions, notre capacité à lever l'impôt, et effectivement parce que la politique monétaire très accommodante de la Banque Centrale Européenne nous permet effectivement de réduire les spreads, c'est-à-dire d'avoir des taux particulièrement intéressants du niveau de ceux de l'Allemagne, par exemple. Donc, toutes ces conditions macroéconomiques, mais aussi la qualité de la politique publique menée par la France, notamment depuis 3 ans, sont des raisons qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons nous endetter pour faire face à la crise et aussi pour préparer la relance.
Une grande problématique parmi d'autres, Laurent Saint-Martin, c'est l'emploi des jeunes, la situation des jeunes. Une piste est à l'étude, nous disent les Échos ce matin, des exonérations de cotisations sociales pour l'embauche d'un jeune, ce qui coûterait environ 10 milliards d'euros. C'est une bonne piste, selon vous ?
La crise précédente nous a apporté un enseignement très clair, c'est qu'il faut faire très attention à la jeunesse en sortie de crise et notamment celle qui est à la porte du marché de l'emploi. Il faut absolument accompagner de façon très incitative le retour à l'emploi et notamment l'entrée sur le marché du travail de nos jeunes pour ne pas que se reproduise ce que malheureusement est arrivé sur 2009, 2010, 2011, des premières années vraiment d'attente avant de pouvoir obtenir un premier emploi et qui souvent sont une cassure dans l'entrée dans la vie professionnelle et qui laissent des traces, non seulement pour la vie de ces jeunes générations, mais aussi pour le marché de l'emploi lui-même qui n'arrive pas à former rapidement des jeunes talents. Donc il faut à la fois sur la jeunesse aider les plus précaires d'entre eux qui ont subi davantage d'inégalités pendant la crise. Et là, je pense notamment aux étudiants boursiers. Nous allons prolonger les bourses, nous allons payer les loyers aux CROUS qu'ils ne peuvent pas payer. Nous allons leur donner une indemnité, une prime exceptionnelle pour le mois de juin de 200 euros. Ce public très précaire, il faut y faire très attention parce que sinon, il décroche de l'université. Et c'est ce même public que nous ne verrons pas sur le marché du travail demain.
Merci.
Et puis, l'autre public prioritaire, c'est celui sur le marché de l'emploi.
Exonération de cotisations sociales.
Des pistes comme les exonérations ou des primes à l'emploi sont effectivement des pistes à regarder de près.
Merci à vous Laurent Saint-Martin, merci également à Anne-Laure Jumet et Sandrine Malon à la technique. Nette dégradation du temps cet après-midi, les orages vont menacer le nord-est et le centre ainsi que le sud-ouest du pays, temps pluvieux sur la façade atlantique, soleil sur les côtes méditerranéennes en Normandie et en Bretagne. Les températures sont en baisse, 18 degrés à Brest, 25 à Nice, 28 à Paris. C'est la fin de cette édition préparée avec Nathalie Lopez. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Benoît Bouscarel.